Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Onde Femme, Radio Zone. La lune dans vos oreilles, ma voix enrhumée aussi. Bonsoir, comment allez-vous? Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis le reste de la Suisse. Je vous rappelle aussi notre adresse, Onde Femme, Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 à Genève. Dans quelques instants, les informels, c'est les nouvelles et puis les coups de cœur de Marjolaine. À tout de suite. Radio Pleine Lune, Onde Femme, Radio Zone, nos nouvelles. Les titres de ce soir, en Algérie, attentats répétés contre les femmes, des nouvelles du 8 mars dans le monde, en Irlande du Nord, la paix ne se fera pas sans les femmes. En Algérie, attentats répétés contre les femmes algériennes. Depuis quelques semaines, les assassinats de jeunes filles ou de femmes se multiplient en Algérie. Ainsi, lundi, Fatima Gobane, une collégienne de 15 ans, a été enlevée par un groupe armé à l'intérieur de son collège, près de Blida, à 40 km au sud d'Alger, avant d'être égorgée à 10 mètres de l'établissement. Les 6 islamistes armés qui composaient le commando ont ensuite ramené son corps devant la porte du collège. L'agence de presse officielle qui rapporte cette information indique également que deux sœurs, Karima, de 21 ans, et Amak Edjali, de 18 ans, ont été assassinées samedi dans le centre de Regaïa. Un commando armé d'un fusil de chasse à canon scié et de deux pistolets automatiques a tiré sur la porte de l'appartement où elles résidaient avant de les contraindre à s'allonger par terre en compagnie de leur père. Les deux sœurs ensuite ont été tuées, l'une d'une balle dans la tête, l'autre d'une balle dans le cœur. L'une des sœurs avait commis l'erreur, si on peut dire, de se fiancer avec un policier. Toujours selon l'agence de presse, le même jour, dans la région de Blida, un groupe armé a assassiné dans son appartement une femme enceinte de 9 mois, Yamina Amrani, 26 ans, avant de lui voler ses bijoux. Le quotidien Le Matin a par ailleurs affirmé que le 8 mars, date de la Journée internationale de la femme, deux lycéennes de 17 et 18 ans, ainsi qu'une femme de 24 ans, avaient été enlevées et torturées dans la région de Gigel. Relâchées, les deux lycéennes ont déclaré que les islamistes qui les avaient détenues voulaient qu'elles renoncent à leurs études. Selon un récent bilan officiel, 112 femmes ont été assassinées, dont deux écolières, quatre lycéennes, par les groupes armés islamistes entre 93 et novembre 94. 28 autres femmes, en particulier des jeunes filles, ont été enlevées, violées, torturées. Une partie des récents assassinats sont sans doute la conséquence des menaces récentes lancées par le groupe islamique armé contre les femmes membres des forces de sécurité et les épouses de policiers, gendarmes ou militaires, considérées comme impies elles-mêmes, leur mari étant accusé de soutenir le Tadgout, terme islamiste désignant le pouvoir jugé tyrannique. Déjà en 1991, un responsable du GIA avait lancé une fatwa autorisant les meurtres de policiers et fonctionnaires ainsi que de leurs familles, femmes, enfants et vieillards. La semaine passée, le GIA avait par ailleurs lancé un ultimatum afin d'exiger la libération des femmes islamistes détenues en annonçant un renforcement de ses actions s'il n'obtenait pas gain de cause. Le 9 mars, date de l'expiration de cet ultimatum, un attentat à la voiture piégée avait eu lieu contre une cité de la banlieue d'Alger abritant des familles de policiers, 63 blessés dont 8 enfants. Ces crimes surviennent une semaine après la condamnation à mort de 5 dirigeants du Front islamique du salut et du groupe islamique armé par un tribunal symbolique de femmes réunies à Alger à l'occasion de la Journée mondiale des femmes. En effet, à Alger, c'est... C'est par ce tribunal qu'on a célébré la Journée internationale des femmes, un tribunal symbolique constitué à l'initiative du Rassemblement algérien des femmes démocrates qui a condamné à mort les principaux chefs du Front islamique du salut accusés de crimes contre l'humanité. L'ancien ministre et ancien porte-parole du gouvernement, Lélia Slaoui, en robe de magistrat, a joué le rôle de procureur. Vrais gendarmes et vrais policiers protégeaient l'accès de la salle où plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles l'ancien ministre de l'Intérieur, ont suivi ce « spectacle ». Entre guillemets. Le tribunal a renvoyé devant une juridiction compétente l'ancien président Chadli et l'Alliance Sant'Egidio, du nom de la communauté catholique sous l'égide de laquelle les principaux partis de l'opposition se sont réunis à la mi-janvier à Rome, ces deux groupes accusés respectivement de violation de la Constitution et d'apologie du crime. En même temps, se tenait également, près du théâtre d'Alger où se déroulait ce procès, un autre groupe de 400 femmes se sont rassemblées dans un hôtel à l'appel du comité des associations de la famille pour dénoncer les assassinats islamistes. Un documentaire basé sur les témoignages de femmes et de jeunes filles kidnappées et violées par les islamistes a été diffusé. Une Algérienne a fait remarquer qu'en ces temps de conflit, les gestes les plus anodins, comme en travailler, aller chez le coiffeur, au bain ou envoyer ses enfants à l'école sont devenus des marques de militantisme. Selon les organisations familiales, le conflit a fait environ 10 000 veuves et 140 000 orphelins. Le 8 mars dans le monde, à Lausanne, en solidarité avec les Algériennes, un groupe de 200 personnes s'est réuni à l'appel de plusieurs collectifs féministes de la capitale vaudoise. Musique berbère, cracheurs de feu, déploiement de calicots, prise de parole ont marqué ce rassemblement à l'occasion de la Journée mondiale des femmes en solidarité avec les femmes algériennes, niées, violées, massacrées. Se distançant de l'État policier régnant à Alger et dénonçant les groupes islamistes qui s'en prennent aux femmes, ne se soumettant pas à leur diktat, qu'elles aient un comportement ou une tenue vestimentaire non conforme à l'islam ou qu'elles s'engagent pour la défense de leurs droits et les libertés démocratiques, les organisatrices ont voulu inscrire leur action de solidarité dans la durée et exigent des autorités suisses une politique plus généreuse en matière de visa et de droit d'asile. Ainsi, un collectif Solidarité Femmes Algérie, SOLFAL, a été créé et invite à une assemblée le jeudi 23 mars à 20h à la salle 7 de la Maison du Peuple à Lausanne. Le rassemblement s'est conclu par la lecture de la déclaration faite par l'Association pour l'émancipation de la femme algérienne à l'occasion de l'assassinat de Nabila Janine. Toujours à l'occasion du 8 mars, le sommet de Copenhague a dressé un bilan sombre de la condition féminine. Les femmes qui participent au sommet mondial de Copenhague sur le développement social ont dressé ce constat très sombre de la place qui est dévolue aux femmes dans le monde. La Journée internationale de la femme a également été marquée par l'intervention de la très médiatique Hillary Clinton qui nous a dit « Je suis reconnaissante d'être ici à cette occasion et je suis heureuse de présenter une initiative des États-Unis vis-à-vis des femmes pauvres et marginalisées ». Elle a annoncé que son pays consacrait 100 millions de dollars sur 10 ans à l'éducation des filles en Afrique, Asie et Amérique latine. Quand on sait combien les États-Unis consacrent à l'armement pour limiter la démocratie dans ces mêmes pays, on se dit que, bon. Elle a continué en disant « La meilleure façon dont un pays peut y investir, c'est d'éduquer ses femmes. J'espère que d'autres gouvernements vont suivre l'exemple des États-Unis », a souligné Hillary Clinton. Quant au secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, il a fait des femmes le symbole du sommet, dont le thème principal est la lutte contre la pauvreté. Il a déclaré « Ce sont elles qui sont les plus au chômage, les plus exclues et marginalisées de tous les groupes ». Dans la salle du centre Bella où se déroulait le sommet, un autre groupe de femmes était assise autour de dessins et de pancartes. Depuis le matin, une dizaine d'entre elles font la grève de la faim. Elles continueront jusqu'à la fin du sommet. Ce jeûne, selon les organisatrices, qui appartiennent en majorité à des ONG, des pays en développement, ne cessera que quand, je cite, « des décisions auront été prises sur la dette des pays pauvres, l'allocation de davantage de ressources au développement, ainsi qu'un meilleur accès à la société civile aux décisions ». Nous devons voir le monde avec des yeux de femme et reconnaître que jusqu'à maintenant, la majorité des concepts utilisés pour le développement ont produit des inégalités, a déclaré l'épouse du président du Panama. En marge de la conférence officielle, les ONG féminines ont lancé une campagne de sensibilisation de 180 jours qui ne s'achèvera qu'à l'ouverture de la 4e conférence mondiale pour les femmes à Pékin en septembre. Elles entendent ainsi rappeler que les femmes portent l'essentiel du fardeau du sous-développement. Et puis toujours à l'occasion de ce sommet, s'est tenu un sommet alternatif qui réunissait la majorité des organisations non gouvernementales qui, à l'occasion du 8 mars, ont manifesté dans la rue. Environ 8000 femmes et hommes du monde entier ont défilé jusqu'au port dans une marche de soutien aux femmes qui souffrent à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Et puis toujours pour le 8 mars, en Russie, la journée internationale de la femme était plutôt morose. Vous vous souvenez que dans l'ex-Union soviétique et dans les pays ex-communistes, le 8 mars était une véritable fête nationale pour fêter et pour célébrer la femme, avec un grand L et un grand F et un grand S, la femme socialiste. Aujourd'hui, tout était un peu morose et puis c'est plutôt la lauréate du concours Miss Étoile Rouge qui a eu la première page des journaux. Il est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à fêter puisque les femmes soviétiques n'ont pas la vie très facile. La démocratisation n'a guère renforcé l'égalité des sexes. Dans certaines entreprises, 90% des licenciements touchent les femmes et les discriminations salariales sont très fortes. Les trois quarts des femmes russes travaillent, bien sûr, mais en fait, elles sont toujours dans les postes les plus bas et les plus mal payés et continuent à faire les tâches ménagères. Ne me parlez pas du 8 mars, grogne une femme secrétaire dans une entreprise. C'est la fête de l'hypocrisie. Les hommes russes nous font risette et nous couvrent de compliments, mais le reste de l'année, ils nous trompent et ils nous battent. En Écosse, le journal Scotsman s'est transformé en Scotswoman pour célébrer la journée du 8 mars. La première page est identique, pourtant la différence est de taille. Le très traditionnel Scotsman, le plus vieux quotidien écossais, est devenu pour un jour de Scotswoman, l'écossaise. La décision a été prise par la rédactrice en chef, adjointe Leslie Ridoch. Cette décision n'a pas été sans provoquer quelques remous. De nombreuses lectrices, cependant, reprochent depuis plusieurs années au quotidien son titre discriminatoire, mais la majorité des journalistes n'avaient pas voulu changer le titre. Pour ce 8 mars, le Scotswoman s'est rattrapé avec une édition consacrée entièrement aux femmes. Dans un article de La Une, le quotidien dénonce la marche en arrière de Tony Blair sur la question de la représentation féminine dans un éventuel parlement écossais. Lors d'un interview exclusif, le leader travailliste avait exprimé ses doutes sur la possibilité de voir autant de femmes et d'hommes dans cette enceinte, une proposition qu'il avait pourtant soutenue. Dans ses pages magazines, le journal écossais a également choisi de faire le portrait de plusieurs femmes nord-irlandaises qui se sont investies dans l'actuel processus de paix dans la province, ainsi que dans des chanteuses ou des politiciennes écossaises. Avant de s'indigner dans un article de, je cite, « l'apparent embarras des publicitaires et de leur manque d'ingéniosité quand il s'agit de vendre des serviettes hygiéniques ». Enfin, un sondage révèle que les femmes préférées des écossaises sont dans l'ordre « Ma maman », « Jodie Foster », « Anita Roddick », la fondatrice de la chaîne Body Shop, et Margaret Thatcher. Personne n'est parfait. Et puis toujours à l'occasion du 8 mars, en France, les candidats à l'Élysée en sont allés avec leur petit discours féministe, les uns par conviction, les autres par opportunisme. Par exemple, le programme d'Édouard Balladur n'est pas marqué par une volonté de renforcer la place des femmes dans la vie publique. Sous l'impulsion de Simone Veil, il a décidé de changer un petit peu son programme qu'il sentait un peu pauvre sur son point. Sur ce point, il a donc annoncé à l'occasion du 8 mars, on devra sans doute prévoir pour les élections régionales et municipales un quota minimal de femmes. Cela suppose une modification de la Constitution. Voilà une chose qui peut être faite. Il s'agit, dit-il, d'une idée de Simone Veil et que lui, il était réticent au départ. La gauche, elle, a toujours une position un peu plus réformatrice sur l'égalité des sexes, même si les deux septennats de François Mitterrand n'ont pas été marqués par une percée des femmes dans la vie politique. Lionel Jospin accorde donc une place aux femmes, semble-t-il, une place qui ne serait pas uniquement de circonstance. Il nous dit « Pour les femmes et pour la démocratie, je veux résolument faire avancer cette grande idée de la parité ». Et il précise que s'il est élu, il recréera un ministère des droits de la femme. Il n'a pas hésité à s'en prendre à l'archaïsme formidable et au paternalisme masculin de ses adversaires de la droite, les accusant de vouloir, je cite, de façon ouverte et déguisée, renvoyer les femmes à la maison, notamment à travers les politiques familiales. Quant à Dominique Voynet, candidate des Verts, elle s'en est prise au parti politique, ses bastions machistes. Le milieu politique est le seul qui reste réfractaire aux femmes, a affirmé la candidate des Verts, soulignant qu'il faut féminiser la vie politique, changer les règles du jeu de la société. Cette idée des quotas est ancienne. En 82, sans être saisie par le gouvernement ou le Parlement, le Conseil constitutionnel avait rejeté un article de la loi électorale prévoyant que les listes aux municipales ne pouvaient pas comporter plus de 75% de candidats d'un seul sexe. Gisèle Halimi avait alors dénoncé l'antique réflexe de misogynie de la société française. Aujourd'hui, Simone Veil assure que le Conseil d'État juge une telle réforme possible. En Tchétchénie, pour freiner l'avancée des Russes, les autorités indépendantistes tchétchènes ont décidé de mobiliser toutes les forces de la République contre la guerre et de donner une place plus importante à la religion en instituant entre autres la charia, c'est-à-dire le code de la famille. En Irlande du Nord, le Sinn Féin se donne un nouveau visage en découvrant une arme originale pour lui, les femmes. Le 22 février dernier, John Major et John Burton, le Britannique et l'Irlandais, présentaient un document cadre sur l'avenir de l'Irlande du Nord. Depuis le 31 août 1994, déjà, l'IRA avait décidé à cesser le feu, mettant ainsi fin à 25 ans d'affrontements sanglants. Durant les premières années des Troubles, les femmes avaient été quantité négligeable. Puis, au cours des années 80, elles prirent la relève. Les femmes de ma famille, comme l'explique Gary Adams, le leader du Sinn Féin, branche politique de l'IRA, qui rend hommage à ces femmes qui, les épouses, les amies, les sœurs, les mères, ont passé plus de 20 ans dans les parloirs des prisons. Ce sont elles, dit-il, qui ont réellement purgé les peines. Pour la cause, ces militantes ont renoncé à lutter pour leurs propres droits, ceux des femmes. Aujourd'hui, le Sinn Féin les met sur le devant de la scène. S'agit-il d'une vraie révolution ou d'une opération de marketing politique ? L'histoire de l'indépendance irlandaise débute lors de l'insurrection de 1916, où les chefs du mouvement républicain émirent une proclamation du gouvernement provisoire qui garantissait des droits égaux pour tous les citoyens, hommes et femmes. Cette proclamation finit, à travers plusieurs luttes, à conduire à la création de la République d'Irlande, dirigée par De Valera, ancien président du Sinn Féin, en 1932. Mais les promesses d'égalité avaient été oubliées en chemin. Si en 1916, les femmes s'étaient imaginées obtenir dans la société irlandaise une place égale à celle des hommes, elles ont vite déchanté. Au début des années 30, De Valera, désormais à la tête du pays, promulgue une série de textes parlementaires qui limitent leur rôle dans le nouvel État. Les femmes mariées ne peuvent pas travailler dans la fonction publique et la proportion hommes-femmes parmi les salariés était laissée à la discrétion des ministères. La constitution de 1937 entérinait l'indépendance du Sud, mais elle fut considérée comme la trahison suprême par des milliers de femmes militantes qui avaient soutenu la lutte pour l'indépendance. Elle précisait, je cite, « Par sa vie dans son foyer, la femme donne à l'État un soutien sans lequel le bien de tous ne pourrait être atteint. » Le coup fut rude. Les femmes, autrefois décrites par le leader comme les plus audacieuses et les moins dociles des révolutionnaires, se retrouvaient sur la touche. Cette mesure semblait convenir aux hommes du Sinn Féin, qui étaient fondamentalement conservateurs. De par leur tradition catholique romaine, ils étaient encore plus conservateurs que d'autres partis. Mais actuellement, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, le Sinn Féin a fait peau neuve et les femmes y sont mieux représentées à tous les échelons que dans n'importe quel autre parti politique de Grande-Bretagne ou d'Irlande. À mesure que le brouillard de la censure et les soupçons des médias se dissipent, le parti apparaît réellement libéré. Les femmes du Sinn Féin ne sont pas seulement en vue, de toute évidence, elles jouent un rôle déterminant dans le processus de paix en cours et elles veulent avoir leur mot à dire sur l'avenir de l'Irlande. Elles entendent transformer la Nouvelle-Irlande pour laquelle elles négocient en cette société égalitaire et pluraliste dont rêvent les féministes. Du point de vue quantitatif, la féminisation du Sinn Féin est indiscutable. Le nombre de femmes à des postes clés y est plus important que jamais. La moitié de ces délégués au Forum national pour la paix et la réconciliation sont des femmes. Et parmi les 30 personnes qui siègent au bureau national du parti, on compte désormais 8 femmes. Non seulement c'est une femme qui détient la position enviée de secrétaire générale, mais d'autres sont à la tête des ministères de l'éducation et des affaires étrangères. Depuis 3 ans, le directeur des relations publiques est une femme et les bureaux de Belfast et de Derry, qui jouent un rôle crucial, sont tous deux représentés par des femmes au plan national. Peut-on pour autant conclure que ce processus de féminisation est sincère en termes politiques ? Rien n'est moins sûr. Après tout, disent les sceptiques, n'est-ce pas le moment rêvé pour le Sinn Féin de jouer la carte des femmes ? Dans le Sud, sous la très respectable présidence de Mary Robinson et avec la perte de pouvoir de l'Église catholique, les valeurs sociales évoluent rapidement. Pour que le Sinn Féin vienne à bout des barrières psychologiques au Nord comme au Sud et se fasse une place dans cette nouvelle Irlande unifiée qu'il espère voir émerger des négociations de paix, il lui faut un soutien élargi et des alliés extérieurs qui pourraient mieux se charger de cette tâche que ces femmes progressistes qui sont en train de monter. Pour Emily O'Reilly, la principale correspondante politique du Sunday Business Post en Irlande, cette représentation est un alibi. Je cite, « Le Sinn Féin s'affiche sous un jour très progressiste, dit-elle, notamment en épousant la cause de nombreuses femmes, en se présentant comme un parti sans préjugés sexistes et en poussant quelques femmes sur le devant de la scène. Mais à l'exception de l'actuelle directrice des relations publiques, le pouvoir est toujours aux mains de McGuinness et d'Adams. » Pourtant, si l'on considère l'histoire du parti et celle de ses militantes, le processus de féminisation ne peut pas être écarté si facilement. Du côté républicain, les femmes ont été extrêmement actives durant la phase des troubles, euphémisme utilisé pour désigner les 25 ans de guerre civile. Au départ, leur rôle était plutôt accessoire. Elles tapaient sur des poubelles pour avertir que des soldats britanniques approchaient, organisaient des campagnes de soutien en faveur des droits des prisonniers. Mais peu à peu, elles montent en première ligne. À partir de 1968, elles peuvent devenir membres de plein droit de l'IRA. Depuis, bon nombre d'entre elles ont combattu et sont mortes pour la cause républicaine. C'est l'histoire elle-même qui a fait que leur rôle a acquis de plus en plus d'importance. La nécessité est devenue mère de la libération. À travers tout leur rôle et leur lutte, les femmes ont aplani les contradictions entre lutte nationale et combat social, permettant ainsi à l'idéologie républicaine d'évoluer vers une reconnaissance des droits de la femme. Ainsi, dit l'une, en luttant par exemple contre la brutalité des soldats, les femmes ont aussi soulevé le problème de la violence domestique et elles ont exigé des foyers pour les femmes battues. Pour elles, c'est l'adversité qui a permis aux femmes de prendre de l'importance. Une d'elles, conseillère, dit « Lorsque nos hommes ont été emprisonnés, pour la plupart, ils nous ont laissés dans la cuisine en train de faire la vaisselle et de nous occuper des enfants. Lorsqu'ils sont sortis, ils s'attendaient à trouver leur repas tout prêt, mais nous n'étions plus à la maison. Nous étions dans la rue avec nos pancartes et ils ont dû se faire manger tout seuls. Voilà comment les troubles nous ont fait changer. » Celles qui se sont engagées dans le républicanisme au cours des 25 dernières années ont constamment été confrontées au dilemme suivant. On leur a demandé d'oublier leur lutte spécifique au profit de la grande cause qu'est la libération nationale. Pourtant, depuis environ 6 ans, elles ont réussi à élargir le programme du Sinn Féin à des sujets inattendus. Le parti affiche ainsi désormais une ligne en faveur du divorce. Il existe désormais des centres d'accueil et des crèches pour les enfants des militantes. Le parti n'est pourtant pas allé jusqu'à accorder et adopter le principe de l'avortement libre et gratuit. Pour beaucoup de femmes irlandaises, le lien avec les féministes a été en Angleterre, entre autres, a été difficile sur la problématique de la violence. Ainsi, Una Gillespie, une trentaine d'années, conseillère du Sinn Féin pour le district national d'Upper Falm à Belfast, récuse avec colère l'assertion selon laquelle féminisme doit rimer avec pacifisme. Ancienne conseillère dans un centre d'aide aux femmes victimes de viols, militante pour les droits des homosexuels, elle estime que le pacifisme est un luxe réservé aux libéraux de la classe moyenne. Je cite... C'est facile pour eux de parler de l'Afrique du Sud ou de la Palestine. Ça ne les touche pas de près. Quand les gens meurent, c'est comme s'ils ne saignaient pas. Mais quand on est en lutte, on n'a pas le choix. On réagit à une situation. Si on me colle contre un mur et qu'on essaye de m'étrangler, je donnerai un coup de pied. On a tous cet instinct de survie. Quand une autre femme, elle est tout aussi intransigeante. Je n'aurais pas soutenu la lutte armée si je ne m'étais pas un jour sentie capable de tuer quelqu'un. Il ne s'agit pas de défendre le droit des autres à tuer. Pourtant, comme beaucoup de femmes du Sinn Féin, ces femmes estiment que la lutte armée est terminée. Les femmes ont beaucoup à apporter dans les mois à venir. Mais cette plus grande reconnaissance des femmes donne-t-elle vraiment du pouvoir aux militantes du Sinn Féin? Certains continuent à n'y voir qu'une mesure cosmétique. Les femmes participent aux délégations et aux plateformes et elles occupent plus d'un quart des sièges du comité exécutif et c'est la politique du parti qui le veut. De là à connaître le pouvoir dont elles disposent véritablement, c'est difficile à dire. Pour la fondatrice de l'Irish Women's Movement, il faut reconnaître que les femmes constituent, je cite, un soutien beaucoup plus important que dans tout autre parti politique irlandais ou anglais. Mais elle pense qu'elles sont toujours dans l'ombre des trois hommes qu'elle appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Mitchell, McLaughlin, le théoricien du Sinn Féin et Gerry Adams. Et de remarquer que les hommes ont également de plus fortes chances de devenir porte-parole. Les femmes ne sont pas encore des grands orateurs et les médias veulent des gens capables de défendre leur point de vue par des formules choc. Mais les femmes doivent se conformer toujours à l'ordre du jour des hommes, dit-elle. Le processus de paix ressemble à un club exclusivement masculin, pensé et mis en œuvre par les hommes. Pour le Sinn Féin, le vrai défi est encore à venir et qu'il parvienne ou non à concrétiser son dessein d'une Irlande unie ne dépasse pas seulement de lui. Mais les femmes du Sinn Féin ont trop donné pour la cause et ont trop progressé pour ne pas jouer un rôle important à l'avenir. De Valera se retournera peut-être dans sa tombe, mais il est trop tard pour que les femmes retournent à leur fourneau. En France, un commando anti-avortement a été relativement lourdement sanctionné par un tribunal du Puy. Le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis à 10 000 francs d'amende à 7 membres d'un commando anti-avortement qui avait occupé le 13 septembre 1994 une salle de la maternité de la ville. Le commando, sous l'égide de l'association Les Sauveteurs, avait occupé la maternité pendant 9 heures. 5 d'entre eux avaient déjà participé à d'autres opérations du même type. Ce jugement était assez attendu. C'est la première fois qu'on donne un jugement si sévère. Le procureur a estimé que les membres du groupe s'étaient comportés en organisation de combat, mettant en œuvre des moyens relevant de la délinquance. Alors que les peines prononcées jusqu'ici dans des cas similaires variaient de 3 à 6 mois de prison avec sursis, le tribunal du Puy porte à un an la condamnation des prévenus. En Angleterre, sous la pression des homosexuels, des évêques confessent leur penchant. Alors que la controverse bat son plein sur les rapports entre l'Église et les homosexuels, l'évêque de Londres avoue une sexualité ambiguë. Selon le mouvement chrétien des gays et des lesbiennes, la plus grande organisation d'homosexuels britannique qui compte quelque 4000 membres, ces timides avancées sont bienvenues mais restent loin de satisfaire leur demande d'égalité pour tous. Selon le porte-parole du mouvement qui bataille depuis 20 ans pour établir un dialogue avec la hiérarchie catholique et anglicane, l'Église encourage actuellement les comportements hypocrites et malsains. Des centaines de membres du clergé font partie de notre association, mais ils ne peuvent pas vivre ouvertement leur sexualité. Restez à l'écoute dans quelques instants la suite de nos informations.